Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Au début de cette saison des yeux au ciel, je vous ai parlé de l'aventure de Youri Gagarine, qui était le premier homme envoyé dans l'espace par la Russie. À cette époque, le programme spatial américain souffre d'une dispersion des efforts, bien que plusieurs programmes ambitieux de missiles balistiques soient bien avancés. Réagissant aux défis soviétiques, le président américain Eisenhower décide, le 29 juillet 1958, de créer une agence spatiale civile, la fameuse NASA, qui doit permettre de fédérer les efforts américains. La course à l'espace est lancée. Les soviétiques disposent alors d'une avance importante et leur lanceur est beaucoup plus puissant que les fusées américaines. Lorsqu'il arrive au pouvoir, en janvier 1961, le président Kennedy est, comme son prédécesseur, peu enclin à donner des moyens importants au programme spatial civil. Mais le lancement du premier homme dans l'espace par les soviétiques le convainc de la nécessité de disposer d'un programme spatial ambitieux pour récupérer le prestige international perdu. Kennedy annonce le 25 mai 1961, devant le Congrès des États-Unis, le lancement d'un programme qui doit amener les astronautes américains sur le sol lunaire avant la fin de la décennie. Il confirme sa décision dans un autre discours resté célèbre, « We chose to go to the moon », le 12 septembre 1962. Lorsque le programme Apollo est lancé, la NASA vient tout juste de lancer son premier astronaute dans l'espace, dans le cadre du programme Mercury. La NASA lance donc deux programmes en parallèle d'Apollo. D'abord Gemini, dont le but est d'acquérir des techniques de vol spatial, et puis un programme d'observation et d'exploration lunaire, afin de trouver le meilleur site pour l'alunissage. En 1968, Apollo 8 envoie une équipe en orbite autour de la Lune. Ils effectuent 10 révolutions et rentrent sans encombre sur Terre. Durant ce vol, ils réalisent de nombreux clichés de la Lune, dont le premier lever de Terre. Apollo 8 permet pour la première fois à l'homme d'observer directement la face cachée de la Lune. Une des tâches assignées à l'équipage consiste à effectuer une reconnaissance photographique de la surface lunaire, notamment de la mer de la Tranquillité, où doit se poser Apollo 11. Le grand jour est enfin arrivé. Le vaisseau, le module lunaire, le lanceur Saturne sont prêts. L'équipage, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sont aux commandes. Environ 3500 représentants des médias sont également présents, les deux tiers venant des États-Unis et le reste de 55 autres pays. Sont en particulier sur place des centaines d'équipes de télévision. Il est en effet prévu que le lancement soit retransmis en direct dans 33 pays. Plus tard, le nombre de téléspectateurs sera estimé à 25 millions rien que pour les États-Unis. Et des millions d'autres personnes dans le monde écoutent les émissions de radio. Le vaisseau Apollo 11 a décollé grâce au lanceur Saturne. Il a orbité autour de la Lune avant de lâcher le module lunaire Eagle, qui a aluni pas tout à fait à l'endroit prévu, mais qui a aluni quand même 6 heures plus tard. Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont prêts pour la première sortie extravéhiculaire. Malgré quelques difficultés techniques et météorologiques, des images fantomatiques en noir et blanc de la première sortie extravéhiculaire lunaire sont reçues et diffusées à peu près 600 millions de personnes sur Terre. Neil Armstrong effectue le premier pas sur la Lune le 21 juillet 1969, à 2h56 minutes et 20 secondes. Leur mission sur la Lune est à la fois scientifique, car ils vont prélever des échantillons, poser des instruments comme un sismographe, mais ils font aussi beaucoup de communication. Photos, caméras de télé, un appel avec le président Nixon. La course à l'espace, c'est aussi et surtout de la com. À l'issue de leur sortie extravéhiculaire, les astronautes ont récolté 20 kg d'échantillons du sol lunaire. Ils ont parcouru à peu près 1000 mètres et ont séjourné 2h30 à l'extérieur du module lunaire. Ils vont ensuite rejoindre le vaisseau Apollo, rester en orbite autour de la Lune, et puis revenir sur Terre. Le trajet de retour vers la Terre ne dure que 2 jours et demi contre 3 jours pour le trajet aller. L'exploit de renvoyer des hommes sur la Lune n'a jamais été renouvelé jusqu'à maintenant. Les Chinois s'y emploient, avec la mission Chang'e, du nom de la déesse lunaire. Après l'arrêt du programme Apollo, le développement astronautique se focalise principalement sur les stations spatiales. Le but est d'accroître les connaissances sur le vol habité de longue durée, afin de réaliser des expériences scientifiques en profitant de la microgravité. L'ère des stations spatiales voit la création de programmes de navettes spatiales, les premiers systèmes de lancement entièrement réutilisables. Seul le programme STS américain aboutit, mais il ne se révèle pas très rentable. Il est arrêté en 2011, après 135 missions. Les véhicules spatiaux habités et les stations spatiales doivent répondre à des enjeux supplémentaires. Le but premier est de permettre à un être humain de vivre à bord. Le véhicule doit permettre à une atmosphère respirable de demeurer en son sein, et donc de résister à la différence de pression entre l'intérieur et le vide spatial. Cette atmosphère doit être recyclée dans le cadre d'une mission de longue durée. Le dioxyde de carbone est capturé par des filtres à air et sert à produire de l'eau par le procédé de Sabatier. La chaleur doit aussi être régulée par des radiateurs externes qui rayonnent la chaleur excessive dans le vide. L'exposition des humains aux radiations est également un enjeu de taille pour les futures missions habitées interplanétaires. Aujourd'hui, les astronautes n'y sont pas exposés, car les stations spatiales se situent en dessous de la ceinture des radiations. Ils sont protégés par le champ magnétique terrestre. Pour les missions Apollo, cependant, les astronautes étaient exposés aux radiations interplanétaires. Mais c'était sans conséquence, car les missions ne duraient que quelques jours. Or, la durée d'exposition est un critère majeur dans la dangerosité des radiations. Mais les futures stations spatiales, comme la station Lunar Gateway qui sera lancée au cours de la décennie 2020 autour de la Lune, devra gérer les radiations. Les enjeux du vol habité ne sont pas seulement technologiques, ils sont aussi logistiques, médicaux et psychologiques. La nourriture est étudiée pour être manipulée, utilisée et consommée en apesanteur. Elle doit être en quantité suffisante pour la durée de la mission. Les stations doivent être ravitaillées régulièrement pour apporter la nourriture et évacuer les déchets, ce qui nécessite un lancement régulier depuis la Terre. En plus de la nourriture, l'entièreté de la vie dans l'espace doit être adaptée à l'apesanteur, comme le déroulement du sommeil, mais aussi l'assouvissement des besoins physiologiques. C'est pour répondre à cette dernière problématique que les couches culottes ont été inventées, avant d'être adaptées sur Terre pour les nourrissons par exemple. Le comportement du corps humain et des êtres vivants, au même titre que les impacts de l'enfermement de longue durée et de l'apesanteur sur la psychologie humaine, sont des aspects profondément étudiés grâce aux stations spatiales. Les missions Apollo ne duraient que quelques jours, permettaient déjà d'augmenter considérablement les connaissances sur les effets de la durée du vol spatial habité. Mais cette durée a été fortement accrue dès les premières stations spatiales qui ont accueilli des équipages pendant 23 jours, et Skylab qui a accueilli un équipage pendant 84 jours. Le record de durée d'un vol spatial a été attribué en 2021 à Valery Polyakov, qui est resté 14 mois d'affilée dans la station Mir. De nos jours, les astronautes de l'ISS y demeurent en moyenne 6 mois, soit le temps nécessaire pour un trajet Terre-Mars. Depuis le 2 novembre 2000, la présence d'astronautes à bord de l'ISS est permanente. Pour rentabiliser le temps passé à bord des stations, les astronautes y conduisent des expériences scientifiques, particulièrement à visée médicale, pour étudier le comportement de leur propre corps en microgravité sur longue durée. Ce qui est, comme nous l'avons déjà dit, le but premier des stations spatiales. La microgravité permet de réaliser de nombreuses expériences dans des domaines scientifiques variés. Expériences irréalisables sur Terre, à moins de recréer temporairement l'impesanteur, comme lors des vols paraboliques. Ces expériences touchent des domaines comme la médecine donc, mais aussi la psychologie, la biologie, l'ingénierie, l'informatique, la robotique. Elles sont élaborées par des scientifiques sur Terre et leur réalisation est confiée aux astronautes préalablement formés à cette fin. Elles peuvent aussi être imaginées par des étudiants et avoir une visée éducative. En effet, les retombées médiatiques de l'exploration spatiale humaine en font un précieux vecteur de connaissances, donnant des opportunités de vulgarisation pour les plus jeunes et pour le grand public, et d'un autre côté, donnant de la visibilité à la recherche scientifique professionnelle. Thomas Pesquet, par exemple, a effectué une dizaine d'expériences lors de sa mission Alpha, lancée en mars 2021. Ces expériences permettent de tester, entre autres, l'impact sur le sommeil du confinement en microgravité, de tester un nouveau matériau réutilisable pour le transport de matériel dans l'espace, mais qui pourrait avoir des retombées dans l'industrie, de tester de nouvelles technologies de télémanipulation, prometteuse pour l'industrie ou la chirurgie, ou encore d'étudier le blob dans un but éducatif. Depuis les premiers vols habités dans l'espace, il existe une fascination répandue pour cette forme d'aventure extrême qu'est le tourisme spatial. À la suite des problèmes budgétaires rencontrés par l'agence spatiale russe, certains, à condition d'être particulièrement fortunés, peuvent depuis 2001 réaliser ce rêve. Le premier, ça a été l'Américain Denis Tito. Il a voyagé dans l'espace du 28 avril au 6 mai 2001. En décollant à bord de Soyouz. Pour une durée de 7 jours à bord de la Station Spatiale Internationale, il a déboursé 20 millions de dollars américains pour ce voyage d'une semaine. Il existe deux formes de tourisme spatial. Le séjour en orbite dans la Station Spatiale Internationale, qui nécessite un très long entraînement, et le vol suborbital, qui consiste à passer quelques minutes à une altitude supérieure à 100 km, mais qui est relativement moins coûteux et moins contraignant. En 2009, les opportunités de tourisme spatial orbital sont limitées et coûteuses. L'agence spatiale russe Roscosmos est la seule à fournir le transport. Le prix pour un vol organisé par Space Adventure à la Station Spatiale Internationale est entre 20 et 35 millions de dollars américains. Pour Philippe Droneau, le directeur des publics à la Cité de l'Espace, le tourisme spatial n'est pas viable à grande échelle, ni souhaitable écologiquement. Outre l'aspect énergivore de ses vols, Philippe Droneau s'inquiète de l'absence de régulation à l'accès de ce Far Space. Le drame du sous-marin Titan, qui a entraîné la mort de plusieurs touristes voulant aller visiter l'espace du Titanic cette année, aura peut-être refroidi les ambitions des touristes spatiaux. Car les vols spatiaux ne sont pas sans danger. L'histoire de l'exploration spatiale est jalonnée de nombreuses tragédies. En 2007, 18 astronautes avaient trouvé la mort en vol, 12 à l'entraînement et au moins 70 personnes au sol. Parmi les grands accidents qui ont touché l'opinion publique, on peut penser à l'accident de la navette spatiale Challenger, qui a été détruite 73 secondes après son égolage. L'analyse de l'accident a montré une défaillance et ont entraîné l'explosion de la navette et la mort des 7 membres d'équipage. Un autre accident a touché les navettes américaines, c'était la navette spatiale Columbia, qui a été détruite lors de sa rentrée dans l'atmosphère en février 2003, après une mission de 2 semaines, qui a entraîné la mort de 8 personnes qui étaient à son bord. L'accident le plus mortel lié à l'exploration spatiale étant celui de la fusée de la Longue Marche en Chine en 1996. Cette fusée vira hors trajectoire 2 secondes après son lancement, s'écrasant sur le village proche et détruisant 80 maisons, en tuant 56 personnes, selon les sources chinoises, et 200 selon les services de renseignement des États-Unis. Dans le futur, d'autres entreprises visent le tourisme spatial, comme par exemple SpaceX, qui prévoit d'assurer plusieurs missions habitées avec sa fusée Falcon et son lanceur Starship. Des missions vers l'ISS, des vols touristiques, et même un futur tour de la Lune. La NASA commence quant à elle déjà à orchestrer l'arrivée d'astronautes sur Mars. L'exploration humaine de la planète rouge est considérée comme un jalon essentiel du futur de la conquête spatiale. L'excentrique milliardaire Elon Musk certifiant l'arrivée des premiers colons martiens avant 2030. La NASA est plus mesurée, visant d'abord un retour sur la Lune pour 2027 avec son programme Artemis. Cette mission est la première d'une série dont l'objectif est d'effectuer des séjours de longue durée à la surface de la Lune pour étudier celle-ci, mais aussi pour mettre au point des techniques nécessaires pour des missions habitées à la surface de Mars.